Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Ce soir, nous allons parler de Live at Fillmore East de l'Allman Brothers Band. J'ai écouté cet album par hasard en 1972 et depuis son achat, peu de temps après, je ne cesse pas d'y revenir. Pour le présenter, je vais un peu tricher pour vous passer des morceaux dont la longueur est difficilement compatible du contexte d'une émission radio. Certains font 33 minutes, 23 minutes ou 19 minutes. Aussi, je vous passerai une majorité de l'album original, soit 5 titres, et 2 titres de l'album sorti juste derrière lui, soit Hit a Pitch, dans lequel on retrouve des chansons enregistrées pendant ces fameux concerts. J'ai aussi dû donc réduire à 7 minutes le morceau d'une durée de 19 minutes. Enfin, pour ceux qui écoutent cet album sur un équipement stéréo, sachez que Duane Allman est mixé à gauche et Dickie Betts à droite. At Fillmore East est un double album live de blues rock de l'Allman Brothers Band. Donc, il est sorti en juillet 1971. Cet album live gigantesque à l'époque, où notamment les deux guitaristes assurent des solos d'une longueur incroyable, est pourtant tous inspirés et captivants. Il y a dans cet album ce côté blues rock sudiste, légèrement teinté de jazz rock, qui rend le tout unique. Succès qu'il révéla au grand public, il faut l'avouer, et At Fillmore East demeure le plus gros succès commercial du groupe. C'est certainement leur apogée artistique. L'album est unanimement considéré comme un des meilleurs lives de l'histoire du rock. Pour info, le Fillmore East était une salle située à New York, sur la 2e avenue, au niveau de la 6e rue. Son propriétaire, Bill Graham, possédait déjà son équivalent avec le Fillmore West de San Francisco. Ouvert le 8 mars 1968, le Fillmore East devient un haut lieu du rock avec plusieurs fois par semaine des concerts. La salle avait une capacité de plus de 3600 places. Tous les groupes de l'époque, les grands artistes, sont passés au Fillmore. Et beaucoup ont sorti un live, espérant d'ailleurs rééditer l'exploit des Allman Brothers. Jusqu'au début de l'année 1971, la plupart des groupes étaient engagés pour 2 jours et pour assurer à chaque journée 2 concerts, entre le vendredi et le samedi. L'Allman Brothers Band y a joué tellement de fois qu'on l'appelait parfois le groupe de chez Bill Graham. En anglais, Bill Graham's House Band. La première chanson de l'album et du concert s'appelle « Statusboro Blues ». L'intro, les parties intermédiaires entre les couplets et le premier solo sont assurés par Duane Allman à la slide. A noter qu'il a certainement entendu la version de Taj Mahal publiée peu de temps auparavant, avec en particulier Jess Ed Davis et Ray Cooder aux guitares. Il a découvert aussi et appris à devenir un grand joueur de slide en répétant sans cesse ses parties de guitare chez lui. Le deuxième solo, après le chant, est assuré par Dickie Betts. Au départ, Statusboro Blues est une chanson de blues en C, écrite par Blind Willie Whitetail en 1928. Le titre fait référence à la ville de Statusboro, située en Géorgie, près de Macon. La chanson a été reprise par de nombreux artistes, dont Taj Mahal, je viens de le dire. C'est cette version qui semble avoir inspiré Duane Allman pour fixer le rythme et la partie slide sur scène. Duan a appris la partie slide avec beaucoup de force et d'intensité jusqu'à arriver au niveau qu'il jugeait parfait, comme on peut l'entendre sur scène, au point de rendre fous les membres du groupe qui en avaient assez de répéter sans cesse les mêmes phrases musicales. Les frères Holman avaient joué Statusboro Blues à l'époque des Hourglass, un groupe qu'ils avaient formé avant les Holman Brothers. Mais c'est la version live du Fillmore qui restera finalement la plus célèbre. Elle a aussi un lien de communauté avec la chanson Up the Country Blues, faite par C.P. Wallace, une chanson qui a ensuite été rendue populaire par Kenneth Heath avec le titre Going Up the Country. Mike Tell a enregistré cette chanson en octobre 1928 en utilisant une partie du texte d'un enregistrement de 1923, donc de Up the Country Blues. J'ajoute que le groupe a interprété cette chanson lors des obsèques de Duane Holman, avec Dickie Betts assurant la partie slide. Et c'est le présentateur Michael Hearn, du Fillmoreiste, qui ouvre l'album avec une introduction simple, restée fameuse, que je vous propose d'écouter. C'était Statusboro Blues par l'Allman Brothers Band sur Roxy Web Radio. Initialement, Trouble No More ne faisait pas partie de l'album Live, Live at Fillmore East, mais est sorti dans l'album suivant, Hit Pitch, qui est paru après le décès de Duane Allman et dans lequel on retrouve un certain nombre de morceaux enregistrés pendant les fameux concerts du Fillmore. Trouble No More est un blues optimiste composé et enregistré par Muddy Waters en 1955. La chanson a été un succès l'année suivante en atteignant le 7e rang du Billboard Rhythm and Blues. Le groupe de Muddy Waters était composé de Jimmy Rogers à l'époque à la guitare électrique, Little Walter à l'harmonica amplifiée, Otis Payne au piano et Willie Dixon à la basse, et enfin Francis Clay à la batterie. C'est un groupe de sessions d'enregistrement de Chess Records, connu et appelé souvent comme les chasseurs de têtes, qui ont joué un rôle majeur dans la définition du blues de Chicago, je tenais juste à le rappeler. Trouble No More est une variation de Someday Baby Blues, enregistrée par Sleepy John Hess en 1935. Une chanson qui a été interprétée et enregistrée par de nombreux artistes. Et la particularité, c'est que Muddy Waters donc, l'a appelé Trouble No More, alors que dans le même temps, Big Maceo appelait sa version Worried Life Blues. Quoi qu'il en soit, elle dérive toute du Someday Baby Blues de Sleepy John Hess de 1935. Comme il l'a fait avec Rolling Stone, Rolling and Tumbling, Walking Blues et Baby Please Don't Go, Muddy Waters a aussi modifié les paroles. Les Allman Brothers Band ont enregistré leur version de Trouble No More pour leur premier album, The Allman Brothers Band, en 1969, que je vous avais d'ailleurs présenté il y a quelques semaines. La version live a été publiée sur 8 Pitch, comme je disais, en 1972, par manque de place sur At Fillmore East. Ces deux albums sont les plus vendus dans la discographie des Allman, et Hit Pitch a été classé disque de platine dès sa sortie et a amené à Trouble No More une célébrité et une reconnaissance du jeune public blanc féru de blues. C'était Trouble No More par l'Allman Brothers Band sur Roxy Web Radio. Cet album a accumulé les particularités, et notamment la pochette. Le groupe lui-même a proposé de s'occuper de cette couverture, car il était déçu de ce que faisait le label Atlantic Records. Au départ, le groupe devait être photographié devant le bâtiment du Fillmore East avec le nom du groupe sur le panneau d'affichage du programme. Mais personne n'a été satisfait des résultats. L'objectif principal du groupe était de montrer leur éthique en tant que groupe de rock sudiste en associant leurs performances qui étaient teintées de blues, de jazz, de rock. Duane Allman a suggéré de faire une photo avec leurs roadies juste avant de monter sur scène. Puis concrètement, la photo fut prise devant un mur du bâtiment de Capricorn Records à Macon, au milieu et assis sur les caisses du matériel de concert, par le photographe Jim Marshall, un matin à Macon, en Géorgie. Le groupe n'aimait pas beaucoup être réveillé si tôt pour prendre des photos en plus, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils rient tous de bon cœur. Quand on sait la raison pour laquelle le groupe a éclaté de rire, c'est tout simplement parce que Duane Allman, juste avant de se mettre en place, a reçu un cadeau que je dirais douteux d'un ami qui passait par là et qu'il a dû le cacher entre ses jambes pour pas qu'il apparaisse sur la photo. Et c'est ce qui a fait évidemment rigoler tout le monde. Jim Marshall a su prendre ce moment particulier. Et là, à l'arrière de l'album, on trouve la photo des Roadies qui était quand même très très rare. Et ils sont exactement au même endroit qu'occupait le groupe 2 minutes auparavant. Et cette particularité marquera quand même l'éthique justement de ce groupe. La chanson suivante s'appelle Done Somebody Wrong et elle est d'ailleurs introduite par Duane Allman qui la présente comme une vieille chanson d'Elmore James qui raconte une vieille histoire. En 1959, Elmore James a commencé à l'enregistrer et notamment au milieu d'autres morceaux relativement importants dans sa carrière comme The Sky Is Crying, Bleeding Heart, Stranger Blues, et donc Done Somebody Wrong. Tom Doucette interprète un solo d'harmonica blues, et il faut savoir que ce joueur d'harmonica était relativement réputé. Tom The S. Doucette, qui a très souvent joué avec le Allman Brothers Band, des années 70 aux années 2000, bien qu'il n'ait jamais été mentionné ou fait partie effectivement du groupe. Et donc il a joué sur plusieurs albums de groupe sans jamais que son nom même soit mentionné. Et actuellement, c'est un instructeur de yoga de premier ordre, il faut le savoir. All right, we got a new song for you, old Elmore James song. We like to play. This is an old true story. This is called I Must Have Did Somebody Wrong. My baby called back, swing and gone. C'était Done Somebody Wrong par l'Allman Brothers Band sur Roxy Web Radio. Avec le morceau suivant, on rentre encore davantage dans le mythique. Stormy Monday montre les racines du blues du groupe. Et plusieurs parties de guitare s'inspirent de la version de Bobby Bland datant du début des années 60. Par exemple, l'intro est assurée par des interactions entre Dickie Betts et Duane Allman sur fond d'orgue. Le premier solo est joué par Duane, le deuxième se passe à l'orgue, avec un changement de tempo joué bien sûr par Greg Allman. Enfin, le troisième solo est assuré par Dickie Betts. Et plus de 40 ans après, je ne peux pas distinguer quelle est au fond la meilleure des parties de ce morceau que je continue à vénérer. Chacun va au-delà du jeu normal, accompagné par un bassiste et deux batteurs qui sont absolument en symbiose. Pour moi, c'est le morceau qui sur scène les faisait passer dans un état second où tout devient possible en termes de feeling. Il faut savoir que sur l'album de 1971, la partie harmonica de Tom Doucette a été supprimée et elle ne fut rétablie que dans les versions de 1992 puis 2003. Pour mémoire, il s'agit d'un morceau de T-Bone Walker datant des années 40 qui fut et est encore repris par une grande quantité d'artistes de jazz, de soul, de pop et de rock. Et il atteint presque à chaque fois les sommets des hit parades.
This is a T-Bone Walker song. Two.
Thank you.
C'était Stormy Monday par l'Allman Brothers Band sur Roxy Web Radio. Est une chanson de blues enregistrée et publiée à la fin des années 50 par Sonny Boy Williamson II et Elmore James. Elle fut ensuite enregistrée comme Rhythm and Blues pour J.L. Crockett, connu aussi sous le nom de J. Davy Crockett au milieu des années 60. Puis popularisée par le public rock au début des années 70 et en particulier par la version fournie par l'Allman Brothers Band. Cette chanson a connu différentes structures mélodiques. Même sa paternité reste floue encore aujourd'hui entre Sonny Boy Williamson II et Elmore James. Sonny Boy Williamson est parfois noté comme le compositeur, c'est le cas sur l'album de The Allman Brothers Band, et il est associé évidemment avec Elmore James. Pourtant, il semble bien que ce soit Elmore le vrai père de cette chanson. Et sa disparition prématurée en 1959 n'a rien arrangé, Sonny Boy Williamson sachant parfaitement utiliser ce type de circonstances. Je précise que la version de One Way Out a été enregistrée lors du dernier concert du Fillmore East le 27 juin 1971 et non pas pendant les concerts du mois de mars 1971 comme c'est le cas de la plupart des morceaux du Live at Fillmore East. En fait, c'était le producteur Tom Dowd qui pensait que c'était leur meilleure version, quasi indépassable, et c'est elle qu'il a gardée et mis sur cet album. Dans cette performance dynamique et percutante, les Allman ont démontré leur maîtrise du blues rock. Dickie Betts joue un boogie tandis que Duane Allman assure le lead, avec une partie guitare slide dont vous me donnerez une nouvelle. Après quoi, Greg Allman raconte le drame de la chanson, et puis Dickie Betts prend le solo, et ensuite Duane Allman et Dickie Betts rivalisent de coups de guitare éclatants. Duane Allman prend alors le solo, le bassiste Barry Oakley se met aussi en évidence dans ce morceau, et quant à Greg, il chante a cappella juste avant le gros final de cette chanson. One Way Out est devenu un incontournable des concerts de Allman dans les décennies suivantes, même après la disparition de Duane Allman. Et ce morceau a souvent été utilisé lors des rappels et a été parfois étiré en longueur sur de très très longues improvisations.
walk in, take my place. Ain't no way in the world I'm going out that front door.
C'était One Way Out par l'Allman Brothers Band sur Roxy Web Radio. Avec la chanson suivante, nous abordons une composition de Willie Copps, né en 1932 dans l'Arkansas, qui eut en fait comme principale référence la composition de You Don't Love Me. C'est la chanson que nous allons écouter. C'est quelqu'un qui a joué à Chicago dans les années 50. Il a traversé beaucoup de clubs et puis de maisons de disques sans jamais véritablement percer, jusqu'à donc la réalisation de You Don't Love Me en 1960. Et cette chanson, elle est ressortie par Al Kooper et Stephen Stills, si vous vous en souvenez bien, pendant leur super session de 1969, dont nous avions parlé dans l'émission de fin novembre. Pour les concerts du Fillmore East, You Don't Love Me a donné la première des improvisations jouées par le groupe qui soit véritablement inspirée du jazz. Pour parler du rôle de chacun, Duane Allman assure l'intro où il est rejoint rapidement par Dickie Betts. Le premier solo est assuré par Duane Allman et le deuxième par Dickie Betts juste après le chant. Et enfin, Greg Allman fait un solo à l'orgue avant que Tom Doucette n'enchaîne. Et tout ça, c'est ce que je vais vous passer ce soir. Parce qu'en fait, il y a encore une autre partie que j'ai donc été obligé de supprimer, où en fait les deux guitaristes, Duane Allman principalement, mais aussi Dickie Betts, rivalisent d'improvisation pour amener le morceau jusqu'à 19 minutes, et vous comprendrez que c'était un peu compliqué de vous le faire passer ce soir. Aussi, ce que je vous propose, c'est donc une première partie qui, je l'espère, n'est pas trop tronquée pour les amateurs de ce super groupe. Thank you. C'était You Don't Love Me par l'Allman Brothers Band sur Oxy Web Radio. Et que les frères Allman me pardonnent pour cette coupure brutale. Parmi les regrets, j'aurais aimé parler d'In Memory of Elizabeth Reed, composée par Dickie Betts. Elle fut souvent comparée avec les œuvres du saxophoniste de jazz John Coltrane, dont le groupe était un fervent admirateur, y compris de l'album Can of Blue de Miles Davis, paru en 1959. Can of Blue est un des albums préférés de Duane Allman, et on a souvent dit que son don pour les longues improvisations provenait justement de cette admiration qu'il avait pour cet album de Miles Davis. En contrepartie, je vous fais écouter Outlander, qui est un instrumental aussi, et qui sert de vitrine pour mettre en évidence quelqu'un que je trouve assez extraordinaire et qui s'appelle Barry Oakley et qui est le bassiste du groupe. Outlander, vous le savez, est un surnom qui est donné, attribué à Atlanta, en Géorgie, évidemment. Ce titre n'apparaît que sur les albums live du groupe, curieusement, il n'a jamais été édité en studio, et il a évolué à partir d'une session de jam qu'avait réalisé Dickie Betts, qui avait eu l'idée de la ligne mélodique, et là-dessus, ce morceau caractéristique du concert de l'Allman Brothers a permis de mettre la basse en évidence. Ainsi, Barry Oakley joue un grand rôle dans ce morceau. Il savait utiliser les basses et choisir la basse de telle sorte qu'elle convienne parfaitement au morceau à interpréter. Il savait tirer un son boisé ou métallique selon les besoins, mais toujours à bon escient. À sa mort, dans un accident de moto, quasiment au même endroit que Duane Allman, un an plus tard, en 1972, le groupe a eu beaucoup de mal à retrouver un successeur pouvant à la fois rester un homme discret et pourtant très présent dans la musique du groupe. Son amitié avec Duane Allman a fortement marqué les premières années du groupe. Je vous laisse donc avec cet instrumental qui, pour moi, est caractéristique de l'ambiance et de l'esprit musical de ce fabuleux groupe. C'était Outlander par l'Allman Brothers Band sur Oxy Web Radio. Et il conclut finalement les morceaux que j'ai pu vous présenter ce soir concernant cet album. Je ne saurais trop vous inviter à écouter les deux autres morceaux que je n'ai pas pu vous passer ce soir. La semaine prochaine, je vous parlerai de Jethro Tull et de leur magnifique album Aqualung. Et je le ferai avec un accompagnateur surprise. Mais d'ici là, roulez blues!